Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondé. Avec le soutien des gouvernements de Suisse, de Grande-Bretagne, de France, de Suède, d'Allemagne et de Belgique.
Immigrer vers l'Occident, c'est le rêve de milliers de Congolais, mais peu nombreux, ils sont peu nombreux qui suivent la procédure légale pour réaliser le rêve. Ils tentent de voyager par des voies détournées en utilisant de faux documents. Conséquence, ils se font arrêter dans les aéroports ou à la frontière. Alors comment donc émigrer légalement? Nous en parlons avec Madame Joëlle Milquet, vice-premier ministre, ministre en charge le ministère de l'Emploi, mais également celui de l'égalité des chances en Belgique. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, c'est possible d'émigrer en Belgique parce qu'au regard des lois et des conditions qui se multiplient, on dirait que ce n'est pas vraiment le cas sur le terrain.
Ben, c'est évidemment tout à fait possible d'immigrer en Belgique, et d'ailleurs il y en a beaucoup qui le font et qui le font dans un cadre légal, et c'est évidemment dans ce cadre-là qu'il faut organiser l'immigration. On a par exemple pour 2009 eu 12 000 demandes de visa, et en fait 75% des demandes ont été acceptées. Alors il y a des conditions évidemment qui sont demandées, d'avoir par exemple une prise en charge d'une personne qui habite en Belgique, d'avoir la démonstration de par exemple de revenus réguliers, mais on peut aussi le faire dans le cadre du regroupement familial. Mm-hmm. C'est d'ailleurs une des plus grandes possibilités pour un grand nombre de personnes congolaise, puisque un grand nombre de membres de la diaspora sont établis en Belgique. Mmh. Et on a quand même, globalement pour le moment, 40 000 Congolais qui vivent légalement en Belgique. Donc évidemment, les regroupements familiaux est un des éléments souvent les plus importants pour venir. On a pas mal d'étudiants également qui viennent ils ont leur diplôme et qu'ils démontrent qu'il y a une capacité d'inscription et qu'ils peuvent assurer en tout cas leur subsistance. On a beaucoup d'étudiants congolais qui viennent aussi étudier chez nous. Donc c'est évidemment possible dans des conditions légales, et c'est vraiment la voie qu'il faut emprunter parce que pour le reste, on sait très bien qu'il y a vraiment une sorte de trafic parfois qui demande des montants vraiment très importants, avec des conditions de sécurité très faibles, et puis une arrivée pour finir sur le pays ou dans le pays de manière illégale, avec toutes les difficultés que cela recoupe après, comme subsistance, comme logement, comme traitement, parce qu'une fois qu'on est sans papier en Belgique, évidemment, on n'a droit à rien, ni à la sécurité sociale, ni à travailler légalement, ni à avoir une vraie reconnaissance. Et c'est des conditions de vie qui sont assez compliquées.
Alors, vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, faites le 081-890-6394, et ça c'est pour participer en direct à cette émission, ou vous pouvez simplement envoyer un SMS au 081-070-2050, la vice Premier ministre belge est là pour vous, et on va prendre déjà ce premier auditeur qui nous appelle de Mbandaka. Il s'appelle Louana. Bonjour.
Oui, bonjour, Thérèse Bassoudi.
Oui, vous avez la parole.
Oui, j'ai juste une question de poser à l'invité. Bon, j'aimerais savoir quel type de sanctions que réserverait la Belgique à tout autre citoyen étranger qui foulerait les sols belges de manière illégale. Voilà ma question.
Madame la ministre.
Alors, quand il y a des personnes qui sont entrées illégalement dans le pays et que elles sont trouvées par les services de police, il y a en fait différents types de procédures en fait. Hein. Fondamentalement, ce qu'on essaye de faire de plus en plus, c'est de préparer un retour volontaire, qui nous semble la meilleure des choses à faire. Et on est notamment intégré dans tout un projet international pour préparer le retour volontaire, avec à la fois une préparation du retour, éventuellement on essaye de voir dans les lieux des centres ouverts où peuvent se trouver les personnes, comment des gens peuvent préparer la réinsertion avec une petite formation professionnelle, etc. Mm-hmm. Et il y a une prise en charge lorsque les personnes arrivent ici pour assurer leur réinsertion. C'est évidemment la meilleure des façons, c'est de le préparer consensuellement. Sinon, on a en fait à ce moment-là l'Office des étrangers qui donne un ordre de quitter le territoire, et lorsqu'il n'est pas respecté, il se peut, alors on a évidemment certains cas, que l'on doive alors le faire obligatoirement par un retour qui soit alors un retour forcé. On a une cinquantaine de cas de retour forcé par an, mais fondamentalement, nous, on mise sur le retour volontaire. Mais la plus grande difficulté en termes de sanctions, c'est tout le risque de la vie en illégalité dans un pays européen avec déjà un climat froid pendant l'hiver, avec toute la problématique de trouver des moyens de ressources, d'éviter d'être exploité, d'être un moment poursuivi, et surtout quand on vient avec des enfants, c'est toute la précarité de la vie en Belgique qui n'est vraiment pas simple lorsque l'on se trouve dans l'illégalité, notamment en termes d'accès au logement, à la chaleur, etc.
Et quelle est la politique alors de votre gouvernement pour décourager l'immigration clandestine et encourager au besoin l'immigration légale des Congolais en Belgique?
Alors, ce que l'on fait, d'abord on essaye d'avoir une politique européenne très intégrée en la matière, puisqu'on gère maintenant au niveau de l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle les frontières de Schengen, on a une gestion collective en tout cas de l'accès aux frontières européennes. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on va ouvrir ici le 6 avril à Kinshasa la maison Schengen, où on va, c'est principalement géré par les services belges, mais où on va de plus en plus avoir un seul point d'accès vers l'ensemble des frontières européennes, que ce soit vis-à-vis, c'est déjà le cas pour nous, France, Autriche, Finlande, Pays-Bas, Luxembourg, on va s'étendre et on va faire les services pour le Portugal, donc on va ouvrir. Mm-hmm. Donc il y a une gestion collective. Alors on fait des campagnes de sensibilisation, donc on s'est intégré dans un projet ici pour casser cette image que donnent en tout cas certains organisateurs de trafic, faisant croire que c'est facile, qu'il faut d'abord payer beaucoup. Et moi je connais des gens, et c'est catastrophique quand je les rencontre en Belgique, qui ont donné toutes leurs économies de plusieurs années, parce qu'on leur avait promis qu'ils allaient arriver, que tout serait prévu, qu'ils allaient avoir l'Eldorado, et quand ils arrivent, ils se retrouvent vraiment dans de grandes difficultés, souvent seuls, en ayant laissé la famille, en se sentant pas du tout adapté, en ne trouvant pas d'emploi, et parfois en devant trouver des filières, notamment pour les femmes. Et ça, je tiens vraiment à lancer un appel pour les femmes, pour qu'elles fassent attention, parce qu'on a énormément de femmes aussi qui demandent l'asile. Mm-hmm. 60% des demandes, c'est qu'elles se retrouvent parfois dans des trafics contre leur gré, qui sont totalement attentatoires à leur dignité aussi.
Mm-hmm. Alors, vous avez parlé de l'espace Schengen. Beaucoup de Congolais se plaignent par exemple de l'obtention des visas, qui en fait n'est pas une fin en soi. Beaucoup de gens ont été embêtés par la suite à l'immigration quand ils arrivent par exemple en Belgique pour un document de congé ou de transit. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas une coordination entre votre ambassade ici et l'immigration, les services d'immigration en Belgique?
Alors je viens de visiter justement ce matin tout le service des visas, avec des gens qui essayent d'être au maximum au service des Congolais qui viennent faire leur demande. Hein. C'est un des services les plus importants au niveau évidemment de Kinshasa, c'est les demandes vers la Belgique, puisque, comme je vous le disais, on a eu l'an dernier 12 000 demandes de visa. Alors, il y a des choses qui sont assez faciles. Les personnes qui voyagent régulièrement, qui ont déjà de la famille, pour qui on a déjà donné une fois un visa, il est octroyé dans un délai très très court. Mm-hmm. Des personnes qui le font aussi pour dans des relations commerciales, etc. Pour le reste, c'est vrai qu'il faut vérifier toute une série de choses. La plus grande difficulté, souvent, notamment dans le cadre des regroupements familiaux, pour les Congolais, c'est leur papier d'origine. C'est de pouvoir vraiment légaliser les papiers, les actes de naissance et les papiers qui dépendent des autorités congolaises. C'est ça qui explique parfois le retard qui est pris dans les demandes. Mais globalement, les demandes de visa sont... Enfin, on a une réponse après 3 semaines maximum, 1 mois, pour une première demande. Quand on en a déjà reçu une, ça va évidemment et c'est fait de manière automatique. Alors, c'est vrai qu'ici, le service répond positivement. Et lorsqu'il répond positivement, il n'y a pas nécessairement de changement qui est fait au niveau de l'Office des étrangers en Belgique. Pour une première demande, c'est vrai qu'ils doivent rendre un avis, et c'est l'Office des étrangers en Belgique qui donne la décision définitive, mais à plus de 90% des cas, on suit l'avis qui est fait ici par le service à Kinshasa. Donc il y a quand même une assez belle collaboration, et on essaye d'améliorer. Et c'est vrai que, notamment en ce qui concerne les conditions d'accueil, c'est un bâtiment vétuste au niveau de l'environnement, l'ambassade belge et il faut vraiment chercher, c'est l'intention d'ailleurs de déménager pour avoir des services d'accueil beaucoup plus confortables pour les personnes. Mm-hmm. Mais en ce qui concerne les visas, ça, je crois que ce sera la petite révolution, c'est l'ouverture de cette maison Schengen le 6 avril, mm-hmm. qui va vraiment donner des conditions d'abord beaucoup plus harmonisées, mais en termes de confort, de tout traitement des dossiers, je pense que ça va être amélioré et pour le confort des Congolais, ce sera beaucoup mieux.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Madame Joëlle Milquet est vice-première ministre de Belge, mais elle est également ministre de l'Emploi et de l'Égalité des Chances. Et vous avez encore nous avons deux auditeurs qui veulent poser des questions. Il s'agit de Kilo, qui est à Kinshasa, et Joël, qui est à Mbandaka. On va les prendre, et puis vous allez répondre à leurs questions. On va prendre Kilo, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Écoute.
Oui, je réponds au nom de Kilo, je suis à la place de Kinshasa. Je vais poser à Madame la ministre de savoir, il s'agit des fois, vous voyagez le jour de votre voyage, vous avez déjà tous les visas, en présentant l'ambassade, au moment de l'interview, on vous interview, mais il se fait qu'il y a des petites anomalies. Est-ce que vraiment ce genre de choses peut rendre quelqu'un incapable de voyager, Madame la ministre?
Est-ce que vous avez un exemple de problème que vous avez connu à l'ambassade?
Oui.
Lequel, quand ça, Madame la ministre pourra mieux vous répondre.
Dès que vous arrivez à l'endroit, on vous pose des questions telles que vous avez des substances, par exemple, il y a quelqu'un qui est de prise en charge là-bas, des gens, des choses, et vous n'arrivez pas à bien vous défendre au moment de l'interview, ça vous empêche de voir. C'est ça mon exemple que j'ai connu, moi, ma famille.
Ok, on va prendre directement Joël et puis on va laisser le temps à Madame la ministre de répondre. Bonjour Joël.
Bonjour Madame Thérèse, bonjour Madame Joël.
Bonjour.
Oui, j'ai une préoccupation. Nous qui sommes en province, nous éprouvons beaucoup de difficultés pour faire des démarches parce qu'il n'y a pas de consulat ici en Mbandaka. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire étendre les services de consulat même dans les provinces pour nous faciliter les tâches d'effectuer des démarches et surtout pour les étudiants qui veulent aller étudier en Belgique.
Madame la ministre.
Voilà, alors pour la première question, c'est vrai que il y a dans l'entretien, notamment pour une première demande, toute une série de questions. Pourquoi est-ce que vous voulez venir en Belgique? Est-ce que vous connaissez des gens? Est-ce que vous avez des moyens suffisants? Et surtout, comme on sait bien que la personne qui vient dans le cadre d'un visa touristique ou à court terme, il doit pouvoir évidemment avoir des moyens de subsistance puisque tout le système de sécurité sociale et autres ne s'applique pas à ces personnes. Et donc il est normal que l'on demande une prise en charge et qu'elle soit réelle, et qu'on s'assure bien par exemple que lorsque l'on dit qu'on va aller loger chez un oncle ou autre et qu'il prend en charge, il faut que la personne l'ait vraiment bien demandé, que le document soit bien là. Et c'est pour ça qu'il y a souvent une collaboration qui peut parfois prendre quelques jours le service ici à Kinshasa et l'Office des étrangers. Mm-hmm. Mais quand il y a une vraie prise en charge, qu'elle est réelle, qu'elle est vraie, il n'y a pas de problème en tant que tel, il suffit de le dire et de le démontrer et alors le visa est accordé. Moi je connais beaucoup de personnes qui arrivent dans ce cadre-là. Mais c'est vrai qu'il faut pouvoir l'avoir aussi et donc d'avoir une prise en charge notamment au niveau belge. Ceci dit, pour les Belges qui viennent ici, il y a aussi une demande de prise en charge. Alors, pour monsieur qui habite à Mbandaka, je comprends tout à fait. Le Congo est énorme et donc bien plus grand que la Belgique. Alors, on a différents consulats et c'est vrai que idéalement, on devrait les étendre, mais ça doit faire partie d'un accord, notamment avec les autorités congolaises. Mais l'idéal serait de les étendre, ça c'est vrai.
Alors, Joël a parlé d'un autre problème, des étudiants qui aimeraient aller étudier en Belgique. Beaucoup se plaignent, par exemple, que leurs diplômes arrivés en Belgique ne sont pas reconnus. Souvent, ils sont rétrogradés.
Alors ça, c'est un problème d'abord qui ne touche pas qui est réel, hein, mais qui ne touche pas que les Congolais. On a un système d'équivalence des diplômes qui est surtout imposé maintenant par les nouvelles normes européennes de Bologne, puisqu'on gère les universités maintenant de manière collective au niveau européen. Donc on a dû un petit peu renforcer les normes. Alors il y a des diplômes pour lesquels il y a une équivalence, et puis il y a des diplômes pour lesquels on demande par exemple une année complémentaire pour se mettre à niveau et arriver aux mêmes exigences qui sont des exigences européennes. Mais quand on peut avoir le visa pour étudier, bah alors on fait l'année complémentaire. Mais c'est vrai que ça demanderait, et je vais le suggérer au ministre qui est en charge, hein, notamment au niveau de la communauté française, c'est M. Marcourt qui a l'enseignement supérieur, je vais demander qu'on fasse un peu une évaluation pour voir si tout est suffisamment adapté et s'il n'y a pas des choses que l'on peut revoir par rapport notamment à l'évolution de l'enseignement aussi ici au Congo.
Mm-hmm. Alors vous avez également le ministère de l'égalité des chances en charge. En parlant des diplômes, même ceux qui sont déjà immigrants en Belgique, qui travaillent, qui ont fait des cours supplémentaires, même s'ils ont des grands diplômes, des diplômes de chez vous, ils sont réduits à faire des petits boulots. Qu'est-ce que vous allez faire pour réduire ce phénomène-là?
Vous parlez des problèmes de discrimination à l'embauche,
oui.
En Belgique,
oui.
Pour les Congolais.
Oui.
Ah oui, c'est un des gros problèmes pour lesquels je me bats, parce que moi je suis quelqu'un qui veut vraiment défendre les droits des personnes, et notamment les droits des personnes d'origine étrangère lorsqu'elles sont chez nous, et je fais vraiment tout pour qu'elles puissent accéder à l'emploi. Et c'est vrai que je vois beaucoup de personnes d'origine congolaise qui ont fait un ou deux diplômes universitaires et qui ont des difficultés pour trouver l'emploi. Donc on fait toute une série de politiques pour imposer de la diversité dans les entreprises, éviter les discriminations, essayer d'organiser par exemple le système de recrutement par CV anonyme, parce que souvent on voit le nom et puis alors du coup hop, on le classe. Mm-hmm. Pas tout le monde, hein. Je connais pas mal de personnes d'origine congolaise qui ont accédé à des postes vraiment à responsabilité. Hein. On a un des directeurs de la clinique la plus importante à Bruxelles est une personne d'origine congolaise. On en a beaucoup qui sont rentrés aussi dans le monde politique ou dans le monde économique. Mais c'est vrai qu'il reste ce phénomène-là, et ça, c'est un combat de tous les jours, oui.
Mm-hmm. Alors, en parlant de cette égalité, là, on va parler cette fois-ci des femmes, on peut en parler. Alors, selon l'OIM, environ la moitié des migrants du monde sont aujourd'hui des femmes. À combien estime-t-on le taux de migrants congolais femmes en Belgique?
Oh, mais en tout cas, dans les demandes d'asile, qui sont en diminution, hein, on en a plus ou moins 600 pour la dernière année, c'était plus ou moins 600, il y a 60% de femmes. Donc on a une demande plus forte de femmes pour les Congolais. Dans l'immigration illégale, c'est vrai qu'on a aussi souvent des femmes. Bon, l'immigration illégale, on n'a pas toujours de statistiques.
Mm-hmm.
Mais c'est vrai que la grande particularité des femmes, c'est qu'au-delà des demandes d'asile pour des raisons classiques, politiques et autres, il y en a beaucoup qui fuient les violences sexuelles,
mm-hmm.
Il y en a beaucoup qui fuient des statuts inférieurs dans certains pays où elles sont maltraitées pour des questions de genre, parce que les femmes sont beaucoup plus maltraitées dans la plus grande partie des pays du monde que les hommes, et donc il y en a aussi qui fuient notamment aussi les cas de mutilation génitale ou autre. Donc c'est pour ça qu'on a aussi été et qu'on est très attentif dans les demandes d'asile aux éléments qui fondent ce qu'on appelle les statuts alternatifs ou les statuts B. C'est les demandes qui sont plus particuliers aux femmes.
Et quelles sont les dispositions que votre gouvernement a prises par rapport à ces personnes-là?
Mais par exemple, quand donc imaginons qu'une personne, soit elle rentre dans les conditions pour avoir l'asile, elle obtient l'asile. Imaginons qu'elle ne rentre pas dans les conditions pour avoir l'asile parce qu'elle n'est pas vraiment en... Allez, sa vie n'est pas vraiment en danger pour des raisons politiques ou parce qu'elle vient d'une communauté qui est menacée en termes de vie, mais par contre, elle a de raisons réelles ou autres, liées peut-être au fait qu'elle est une femme, de craindre qu'il lui arrive peut-être quelque chose pour un retour au pays. Et donc, dans ce cas-là, on considère que le retour est dangereux et on donne un statut alternatif, qui n'est pas un statut d'asile, mais qui est un statut où on permet de rester légalement dans le pays, parce qu'on considère que pendant, en tout cas une certaine période, le retour au pays est trop dangereux.
Vous êtes au centre de toutes les questions. Ils sont la solution possible à vos problèmes. Radio Okapi réfléchit avec vous sur la solution. En direct, avec toute l'équipe de Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs. Parler, nous transmettons. Proposer, nous discutons. Parole aux auditeurs, de lundi à vendredi dès 11h et mercredi à 10h, heure de Kinshasa. Prenez la parole et nous vous écoutons. C'est sur Radio Kapi.
Alors pour ceux qui viennent de nous prendre de court, sachez que nous avons comme invité Madame Zoëlle Milke, elle est vice-premier ministre, ministre de l'Emploi et de l'Égalité des Chances en Belgique. Et nous avons un autre auditeur qui nous appelle de Bukavu, il s'appelle Lusaya. Bonjour.
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 Oui, je voulais savoir si la Belgique encourage des migrations à partir des camps des réfugiés, une politique, est-ce que vous avez une politique au niveau de chez vous où vous pouvez directement accueillir des gens qui voudraient être réinstallés chez vous à partir des camps? Parce que j'ai des compatriotes qui sont à l'étranger et qui voudraient aller en Belgique, mais qui ont des torts à en venir.
Alors, Madame la Ministre, avez-vous une politique d'accueil et d'assistance des réfugiés?
Alors, en ce qui concerne les personnes qui sont dans les camps et les personnes qui sont réfugiées, reconnues réfugiées au niveau international, on travaille uniquement dans le cadre international et on a certaines expériences qui se font où on accueille dans les pays européens une partie de réfugiés internationaux. Par exemple, en Belgique, on vient d'accueillir une quarantaine d'Irakiens qui étaient des réfugiés reconnus pour lesquels il n'y avait aucune solution dans les pays avoisinants. Et donc, ça se fait au niveau international et à un moment, ça peut se faire aussi, mais alors avec l'ensemble des pays européens, pour les personnes qui sont dans les camps de réfugiés, notamment à l'est du Congo. Mais c'est un projet qui, évidemment, demande du temps parce que le nombre est important. Donc, ce qu'il faut absolument faire au niveau de l'Est, c'est évidemment pacifier, remettre de l'ordre et de la sécurité et faire en sorte que les personnes déplacées puissent revenir chez elles, parce que le but et l'idéal, c'est de revenir chez soi et d'y vivre en paix. Et c'est surtout autour de ces politiques-là qu'on s'investit en coopération, en lutte aussi contre les violences sexuelles dans l'Est du Congo et en faisant en sorte, après, bon, c'est aussi le rôle de la MONUC, mais avec un retour, on l'espère, le plus vite à une pacification et une stabilisation totale, de faire en sorte que les déplacés reviennent chez eux. Ça, c'est l'idéal avant d'aller organiser des exodes dans des pays où ils ne sont pas nécessairement heureux.
Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, quel est l'objet de votre séjour à Kinshasa, si ce n'est pas un secret?
Non, c'est pas un secret. Mais en fait, je suis invité par mon homologue qui est vice-premier ministre et maintenant notamment nouveau ministre de l'emploi et aussi ministre de toutes les politiques sociales, monsieur Mobutu, puisque moi je suis vice-premier ministre aussi et aussi ministre de l'emploi. Mm-hmm. Et le moment est très opportun pour lui, d'après ce qu'il m'a dit, puisque il y a l'emploi est un des 5 chantiers ici au niveau de tout le plan de déploiement et d'avenir et de reconstruction au Congo, et que le Premier ministre, le Président et l'ensemble du gouvernement doivent, dans les mois qui viennent, et notamment avant les fêtes de l'indépendance du 30 juin, venir avec des projets de réforme très très importants, structurels, notamment en matière d'emploi et notamment en matière de politique sociale. Et donc, l'idée, je me suis rendu compte qu'en fait, on avait beaucoup de coopération, évidemment, et j'y tiens beaucoup, entre la Belgique et le Congo, mais que les matières de l'emploi n'étaient pas celles où il y avait les partenariats les plus forts. Et donc, on va vraiment organiser.
Renforcer.
Ah, oui, donc on a toute une série de propositions très concrètes pour avoir un échange d'expertise, mais vraiment dans les semaines qui viennent, entre par exemple l'ONEM, la nouvelle administration de l'emploi, et nous, notre ONEM à nous, entre nos administrations notamment de sécurité sociale, l'Institut national pour la préparation professionnelle que j'ai visité hier et qui est vraiment très dynamique avec nous, nos services de formation professionnelle. Donc je rentre, on va vraiment avoir toute une série d'envois d'experts, de formateurs, et autres. On voit aussi comment soutenir la concertation sociale. J'ai rencontré les syndicats, les patrons, les partenaires sociaux. Il y a un début vraiment d'organisation de la concertation sociale ici au Congo. Et donc l'idée est aussi, comme il y a aussi un besoin d'expertise et de soutien, de pouvoir financer complémentairement chez nous, par exemple, les syndicats, pour qu'ils viennent beaucoup plus aider aussi et qu'ils soutiennent notamment les syndicats ici au niveau du Congo. On a vraiment différents projets concrets, notamment on a aussi tout un échange d'expertise entre nos services d'immigration respectifs. Mm-hmm. Et donc c'est vraiment ça. Moi j'aime bien les échanges bilatéraux qui peuvent se faire de manière rapide, par l'expertise, qui ne soient pas trop lourds, parce que parfois on se lance dans des grands projets et ça prend beaucoup de temps. Et ici, il y a vraiment une urgence par rapport au plan de réforme. Et donc, ils peuvent vraiment compter sur notre soutien, notre partenariat, comme ça a été demandé hier.
Voilà, nous sommes à la fin de cette partie de notre émission au CAPI Service. Nous recevions Mme Joëlle Melkévis, Premier ministre, ministre de l'Emploi, mais également de l'égalité des chances en Belgique. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Et on va vous souhaiter un bon séjour, un excellent séjour à Kinshasa.
Merci beaucoup.
Au CAPI.
Tisina na kosenga na yobosa nanga na salinyo.